Accueillons notre ami Guillaume Latendresse en ce soir de podcast pour Maxime et lui, La Poche Bleue en ce mardi pour une deuxième semaine de suite. Bonsoir Guillaume.
Salut Mario.
Ça arrête pas de bien aller pour les Canadiens. C'est pas trois matchs, trois victoires en trois, mais tu sais, c'était presque ça, 5 points sur 6. Y a-t-il quelqu'un qui rate sa première impression en ce début de saison? J'en vois pas.
Non, il y a personne. Je crois que... peut-être l'indiscipline là, qui vient jouer un petit peu là-dedans.
Oui, oui.
Si on pense pourquoi on a laissé des points sur la table contre Toronto, l'indiscipline a fait partie de ça. Mais il reste qu'on s'est tellement bien débrouillé contre les Oilers en désavantage numérique qu'il y a pas de négatif. Je pense vraiment, là, le seul peut-être point, le bémol que moi, le joueur, j'en ai parlé un peu la semaine passée, c'est Tyler Toffoli qui, peut-être si tu me demandes qui gagne ou manque, je veux pas dire manque sa première impression, c'est beaucoup trop grave là, comme parole,
là, dans
c'est...
le choix de mots, ouais. On est en attente encore de voir
exactement,
quelque chose de plus.
On voit des beaux flashs, pas sur une base constante. Donc, on peut se permettre de dire s'il y a une personne en ce moment que sa première impression est plutôt moyenne, ben j'irai avec Toffoli. T'sais.
Ben, on n'a pas le choix d'être d'accord dans la perspective dans laquelle tu le places. Je suis d'accord. Puis on a hâte de voir. On le voit proche de saisir des opportunités comme hier devant le filet. Bon, il n'a pas réussi son lancer. Tu sais, il réussit des entrées de zone, mais il manque un peu de finition. Ouais. Je te dirais sur la combinaison au complet, Armia, Kotkaniemi et Toffoli. Mais en même temps, ils sont pas trop dans le trouble dans leur territoire. C'est presque désolant de voir une équipe comme les Oilers d'Edmonton là, œuvrer de la sorte, Guillaume. Pour vrai,
ça,
là.
Ça n'a même pas de sens.
Hein?
C'est gênant. Honnêtement, là. Je m'attendais, je me suis dit, McDavid, Draisaitl, après la première partie contre le Canadien, watch out lundi soir. J'ai dit, ça sera pas drôle, ils vont être dans bagarre, ils vont être sur la rondelle. Au contraire, honnêtement, Draisaitl a été une grande déception pour moi dans le match d'hier. Aucune combativité. L'avantage numérique était télégraphié. On n'essaie pas de changer les choses. Du côté de Dave Tippett, je comprends que t'es les deux meilleurs joueurs au monde, là, probablement là en ce moment, qui contrôlent la Ligue nationale depuis plusieurs années, mais il reste que l'avantage numérique, tu leur donnes 2 minutes complètes, puis ils font rien avec, puis tu changes rien. J'ai trouvé qu'on est endormi un petit peu du côté des Oilers. J'ai hâte de voir quel chemin qu'on va prendre, de quelle façon on va aller, mais honnêtement, ça a été vraiment désolant du côté des Oilers d'Edmonton, le niveau de combativité. Je comprends qu'on manque de profondeur en défensive. Ont ouvert la discussion après le premier match, disant que Koskinen était fatigué de 3 matchs en 4 soirs, là, mais hier, il était reposé, puis il a été un peu mieux, mais il reste que, tu sais, le but de Lekkonen, faut que tu réussisses comme gardien à garder ton équipe dans le match. Puis hier, ben pour moi, il a pas réussi à le faire. Donc, les Oilers, présentement, plusieurs personnes les avaient mis en série éliminatoire, puis même à haute estime. Puis je me demande s'ils vont pas finir en arrière des Sénateurs d'Ottawa avec la combativité qu'on démontre depuis le début de saison du côté des Sens. C'est pas un club qui va être facile à battre. Puis on s'en va dans une série de 3 matchs pour les Sens contre les Jets de Winnipeg. Ça va être extrêmement intéressant de voir ça parce que on se démène du côté des Jets et des Sénateurs, même si les Jets sont décevants quand même un peu.
Oui, la saison est jeune, puis j'ai hâte de voir après 10 matchs, 10-12 matchs, là, s'il y en a qui se font déjà larguer. Ouais. Hey, imagines-tu, Guillaume, t'affrontes un même club, mettons, 9 fois, puis tu sais, on est rendu plus tard dans la saison, t'as perdu tes 6 premiers matchs. Il y en a qui vont, je sais pas, il y en a que... À quoi tu t'attends? T'attends-tu? Qu'est-ce que ça va donner comme scénario? Pas la redondance, mais le fait de développer les rivalités comme ça, tu penses que ça va dépasser les bornes dans certains cas?
Le meilleur exemple que je vois, là, c'est le match Columbus contre Détroit hier, où Dylan Larkin donne ses billets à Zach Werenski parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des billets visiteurs du côté de Columbus à cause de la pandémie. C'est juste des gens locaux. Puis ses parents habitent Détroit, la région où il est natif de là, Zach Werenski. Donc les deux chums, ils donnent ses billets puis finalement se retrouve qu'ils jettent les gants en fin de match dans une échauffourée où il y a eu 2-3 combats. Je pense que l'histoire elle démontre un peu la rivalité qu'on va réussir à créer. Puis ils jouent encore contre aujourd'hui. Quand tu affrontes la même équipe à plusieurs reprises comme ça, ça devient extrêmement difficile, extrêmement mentalement, c'est dur. T'sais, on a parlé tellement cet été, t'sais, puis je veux pas revenir là-dessus, mais le rôle de Philippe Dano, je m'excuse là, mais ce gars-là fait la job là. Ce gars-là fait la job, puis je suis content de son début de saison. Je suis content qu'il soit capable de mettre ça de côté, puis qu'il dérange, qu'il affronte les meilleures équipes, les meilleurs trios adverses en désavantage numérique. Il est solide, il bloque des des tirs, ils sont, son bâton est bien positionné dans les lignes de passe. Moi, je trouve qu'il y a un début de saison super bon, donc mais oui, la rivalité que ça va emmener, c'est comme là les Oilers, c'était 0-2 contre les Canadiens. Le prochain match, c'est affronte. Faut que tu ailles en chercher une. Là. La première, faut que tu ailles la chercher. Puis, tu sais, plusieurs étaient en désaccord avec la décision de Claude Julien de mettre Jake Allen dans les filets.
Ah
moi,
oui?
Moi,
ben, je sais pas, peut-être, là, mais, ouais. Ça, mais c'est le même à tous les ans. Écoute, je me souviens, je faisais 110% dans le temps, là. Pis,
c'était le même.
aussitôt que le gardien numéro 2 avait son premier départ, c'était le match 3-4, tu pouvais déjà te dire qui allait prendre cette position-là. Ça n'a jamais arrêté. Parce que c'est un sujet à clic, c'est un sujet à réaction, puis c'est un marché qui veut provoquer des réactions. Fait que de quoi qu'on parle, on va s'assigner sur le goaler.
Puis tu sais, moi, j'aime le fait qu'on affronte les Oilers deux matchs sur la route. On a été chercher la première. Notre job est fait. T'sais, si on réussit le duel de deux matchs contre les Oilers en jouant pour 500, puis on a donné un match à Allen, on repose Price, même si c'est un début de saison, c'est pas grave. Faut lui donner des matchs à Allen. Faut qu'il embarque dans le game lui aussi. Là, tu ramasses les deux. Fait que c'est juste positif. Puis là, tu te retrouves mercredi avec Carey à Vancouver en pleine forme, reposé. Il y a eu le temps de faire des entraînements. Il y a eu le temps de reprendre un peu de game shape. Moi, je pense que c'était la meilleure décision. Ça a été super positif. Puis je dirais la même chose, même si ça avait été dans une défaite.
Oui.
Mais Allen a été très solide. Il n'a pas été utilisé beaucoup, mais il reste qu'après tout le temps que les gars n'ont pas joué, de revenir comme ça, le stress, l'ambiance, tout ce qui est autour de McDavid, Draisaitl, tu t'attends une grosse performance, le stress, toutes ces choses-là, de vouloir bien performer. Moi, j'ai vraiment aimé Jake Allen hier.
Puis là, ben, il fait vraiment partie de la gang. Il en faisait partie déjà, mais là, t'es allé à ta première mission et tu l'as réussi, pas à peu près. Et dès la première période, avec les nombreux désavantages numériques, plusieurs attaquants qui sont démarqués. D'ailleurs, je vais donner une bonne note à Jake Evans hier, qui a eu quelques belles courtes séquences en désavantages numériques. 7 attaquants qui se sont succédés. Et donc, beaucoup de joueurs qui réussissent leur entrée. Romanov qui marque son premier but.
Ouais.
Et j'ai bien aimé qu'il emploie le tir du poignet. Un petit peu comme Petrie le fait souvent. Puis d'ailleurs, Shea Weber a marqué hier. Il a lancé un gros lancer frappé sur une magnifique passe de Nick Suzuki. Va saisir son rebond dans le coin puis la faire bondir sur le dos ou en tout cas sur le gardien de but. Il marque. Puis Weber qui réussit à se démarquer en offensive autrement qu'avec son boulet de canon. C'est pas négligeable, ça. T'sais, c'est pas un gars aussi élégant à regarder patiner qu'un Petrie, mais ça aboutit souvent dans son cas.
Ah, mais c'est un gars qui est intelligent à sa patinoire, puis justement, vu qu'il a peut-être un peu moins de mobilité ou de vitesse, son intelligence lui permet d'être en avant du jeu puis de faire une lecture, mais tu sais, on parlait des Oilers tantôt, là, sur cette séquence-là, je m'excuse, là, mais tant qu'à faire un repli défensif de la façon qu'on le fait, t'es aussi bien de pas en faire. Tu sais, honnêtement, Suzuki s'en va dans le coin, puis il se vire, puis il y a 3 gars sur lui, puis on libère l'enclave complètement. Koskinen, qui a l'air d'Alexandre Despatie en train de nager dans le filet, c'est arrivé à 2-3 reprises, là, 2-3 reprise, Koskinen et un défenseur couché à terre 5 secondes de temps. Là.
Ben, le défenseur où il y a eu le challenge vidéo, c'est
le challenge, puis il y en a eu un autre en troisième période avec honnêtement, je comprends pas cette équipe-là vers où on s'en va, mais du côté de Weber, oui, il réussit à se positionner, il réussit à trouver l'espace libre, puis du côté des défenseurs, je pense qu'on commence à le voir de plus en plus avec les jeunes qui rentrent, tu sais, des Samuel Girard ou des Cale Makar ou des Quinn Hughes, des Rasmus Dahlin. C'est pas des gars avec des gros tirs frappés, c'est des gars qui mettent la rondelle au filet. C'est des tirs qui sont faciles à dévier, puis c'est des tirs qui sont à hauteur à peu près du genou. Fait que ce qui fait en sorte que le gars qui est en avant des filets, tu peux la faire dévier par en haut ou par en bas. Puis ça, c'est drôle à dire, mais c'est une grande importance pour moi comme joueur en avant des filets. Parce que dès que la rondelle est trop haute, je peux plus la faire dévier parce que tu as peur d'être au-dessus de la barre horizontale. Donc un tir hier comme Romanov, si moi je suis en avant des filets, je peux la faire dévier par en haut, par en bas, gauche ou droite. Le positionnement du gars en avant du filet est très important. Puis ce type de tir-là va, s'il ne crée pas un but comme hier, va créer une deuxième ou une troisième opportunité. Puis c'est vers ça qu'on s'en va beaucoup au niveau du hockey professionnel. On voit beaucoup de défenseurs tirer rapidement, prendre le gardien hors position, pas permettre à la défensive de se replacer,
d'être
dans la ligne de tir. Puis
ouais,
moi, je pense que ça paye beaucoup ce type de lancer-là.
Ça m'a fait penser à Raymond Bourque, qui en a marqué des buts avec son lancer du poignet de la ligne bleue. Paul Coffey également en a utilisé beaucoup, et c'est deux des plus prolifiques joueurs de pointe, joueurs défenseur de l'histoire. Juste pour revenir sur Dano, je voulais en rajouter une couche parce que je lisais avec intérêt le TVA qui faisait un résumé de ça sur son site, de ce que Nathan MacKinnon avait dit au podcast Spitting Chicklets avec Bissonnette, l'ancien dur à cuire des Coyotes de l'Arizona. Et Nathan MacKinnon a la question, qui est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue, ou parle-moi d'un joueur sous-estimé. Il a parlé de Philippe Dano, je sais pas si tu es au courant de ça. Il a dit de Philippe qu'il était un joueur sous-estimé, qu'il n'a pas encore eu la reconnaissance d'obtenir un Selkie, mais il dit c'est tellement un bon joueur de centre, il dit vraiment difficile de jouer contre lui. Espérons qu'il remporte un Frank Selkie un jour, je pense qu'il le mérite. Il est un bon centre, il est bon contre tout le monde, pardon, et pas seulement contre moi. Donc, quand les gars jouent contre, ils s'en rendent compte. Et quand on se demande s'il y aurait de l'intérêt pour un Dano sur le marché, si jamais il est dans une position de tester l'autonomie, ben je veux dire, MacKinnon, c'est-à-dire que Dano, il joue contre les meilleurs joueurs offensifs de toutes les équipes de la Ligue. Fait que si ces gars-là ont un contact avec le DG, puis à un moment donné, ils cherchent à renforcer leur ligne de centre, puis Dano devient disponible, je pense qu'ils jaseront pas bien longtemps.
C'est au-delà des statistiques, Philippe Dano. C'est tout simplement ça, tu sais, on le compare à, au niveau des statistiques. Non, Dano, il est bon dans les face-off, il est bon en fin de match, il est pas égoïste. Tu sais, il y a un filet désert, il va la mettre dans la baie vitrée pour être certain qu'elle sorte de la zone, pour pas faire un dégagement refusé. Soir, c'est l'horloge grand-père. Tu sais qu'elle fait TikTok à minuit, elle fait à 1 heure, elle fait à 2 heures. Il y a une constance incroyable. Pour moi, ce gars-là, dans un vestiaire, est tellement important. C'est un gars qui accepte son rôle. En ce moment, là, tu le vois il est là à aider les jeunes à s'améliorer en mise en jeu quand lui, il a pas de contrat pour l'année prochaine, puis c'est ces kids-là qui veulent prendre sa place. Ça démontre le leadership, la confiance qu'il y a en lui. Puis moi, j'espère qu'on va être capable de le garder, puis sinon, ben il va se trouver une place, puis il y a une équipe qui va juste, tu sais, on en parle souvent, Jean-Gabriel Pageau, des gars comme ça. C'est des gars qui rendent tellement de fiers services à leurs organisations. Peu importe le montant, tu sais, on a tellement parlé en long et en large, on tombera pas là-dessus, le montant à Philippe.
Ouais, eux autres de s'entendre, c'est pas nous autres de négocier sa passe publique, puis de déchirer notre chemise à tous les jours sur une fraction de 100 000 piastres ou de 5 millions. Garde, arrangez-vous. D'autres, on voit ce qu'on voit. Le DG, c'est pas un nono non plus. Je veux dire, à un moment donné, il va analyser son équipe. Je veux dire, qu'il continue de jouer comme ça toute l'année. Je veux dire, tu veux-tu vraiment briser ça? J'ai même envie de te dire, puis là, je crache pas sur Pierre-Luc, là, il arriverait ici, mais je veux dire, quand tu regardes ça, on va voir ça avancer, j'aimerais ça savoir pourquoi tu veux vraiment, mettons, risquer des choses, débalancer ta masse salariale pour aller chercher Pierre-Luc, parce que tu fais pas d'omelette sans casser d'œuf, là, tu sais.
Mais c'est... Moi, je pense que du côté de Marc Bergevin, on se dit que c'est là, c'est maintenant. C'est la seule raison pour qu'on le ferait, le move, parce que je pense pas que tu peux espérer à gagner, puis c'est sans rien enlever au kid, là. Je pense pas que tu peux gagner une Coupe Stanley avec Kotkaniemi comme joueur de centre en ce moment dans tes 3 premiers. Sans rien y enlever, je pense qu'il manque encore un peu de maturité, d'expérience dans le game. Ce qui va devenir un bon joueur, je suis pas inquiet, mais pour gagner une Coupe Stanley avec tous les gestes qu'on a fait, avec tout ce qui s'en vient, l'âge de Weber, de Price, tu sais, la fenêtre qui se rétrécit un petit peu. Si tu veux gagner cette année, l'an prochain, t'auras pas le choix de te départir d'un gros morceau, d'un jeune, pour aller chercher un Dubois puis essayer de faire de la place à la masse salariale, parce que c'est là que ça se passe. Puis la seule affaire que t'achètes, c'est 2 ans de plus, puis tu le sais que Dubois, cette expérience-là, il l'a pris. Ce bagage-là, il l'a pris. Il a joué dans des grosses séries éliminatoires. Mm-hmm. Tu sais ce qu'il va t'offrir. Fait que si t'es all-in là ou l'an prochain, c'est là que le geste de Philippe Dubois, de Pierre-Luc Dubois, pardon, devient important, parce qu'il est prêt. Il est prêt.
Il est prêt, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est plus vers les trios 3 et 4. On verra, puis on a le temps d'en parler. Mais je serais pas surpris, malgré les signes de progression évidents que nous démontre Evans, que Marc Bergevin a cherché un vétéran joueur de centre, Michel Imsouf à l'oreille, Ryan Getzlaff en fin de saison à date limite. Je sais pas. On verra comment ça va se jouer. Guillaume, si tu permets, je vais te garder un peu plus longtemps parce qu'il y a trop de sujets que je voulais aborder avec toi. Dont un, tu te souviens-tu, t'es trop jeune, t'as déjà entendu parler des Pirates de Pittsburgh, toi, dans le temps qu'ils faisaient ben du dommage dans la même division que les Expos de Montréal. Ils avaient une très, très forte équipe, là, fin des années 70, début 80.
Je savais pas qu'ils avaient gagné une ronde de série.
Tu savais pas? Willie Stargell, Dave Parker, Kent Tekulve, j'en oublie, Al Oliver.
Moi, je connais O. Henry, c'est tout. C'est quand il jouait avec les Expos.
Ah oui,
c'est bon. Je connais pas rien d'autre.
Mais la chanson rassembleuse, la chanson fétiche, la chanson thème des méchants pirates de l'époque, c'était une toune de Sister Sledge. Et cette air-là, et tu vas entendre le refrain, c'est de la musique à nos oreilles. Pour ceux qui s'inquiétaient de la chimie, si ça va mettre du temps à s'installer à Montréal, le kid Baragouin, 40 mots d'anglais, Alex Romanoff, il est accueilli par Papa Weber puis toute la gang. Puis écoute ce qu'il dit hier, après la rencontre, après son premier but, il savait pas comment l'exprimer. Il avait envie de crier, il y a rien qui est sorti. Il y a un beau gros sourire, on l'a tous adopté. Et voici l'esprit qui règne. Avec Romanov et son commentaire d'après-match. Excuse l'intro plus longue que je pensais.
We're playing like a team, we're playing like a family.
Hey, c'est-tu pas beau, ça? Sortez les violons, magnifique. Sortez la musique. Tu sais, parce que les équipes championnes, quand ils gagnent, qu'on pose des questions, pourquoi vous avez gagné? Qu'est-ce que vous aviez de spécial? Ils disent, ben, on a joué en équipe, pis on a joué comme une famille. T'entends ça après trois matchs d'un kid qui débarque en ville. Puis après la pause, je vais te demander, as-tu déjà eu ce feeling-là dans une équipe?
We're playing like a team, we're playing like a family.
Guillaume, t'as connu ça. Romanov amène de l'enthousiasme. On l'a vu juste sur son langage corporel, son sourire. Ouais. C'est... Puis on aime aimer les nouveaux à Montréal. Tu l'as vécu. Je veux dire, t'es un des... Je veux dire, qui l'a vécu plus que toi? Mais ça amène de l'enthousiasme. Et as-tu déjà vécu ça dans ta vie, peut-être même dans les rangs mineurs, mais le sentiment de jouer dans une famille? Parce que c'est quelque chose qui ressent ça aussi vite, là.
Moi, je te dirais, la fois que j'ai senti le plus, c'est avec les Sénateurs d'Ottawa. De par la façon que les vétérans géraient le vestiaire, la façon qu'ils avaient d'intégrer les jeunes. Moi, je suis arrivé dans les années, là, les débuts de Jean-Gabriel Pageot, de Mark Stone, d'Eric Carlson. C'était des jeunes, on avait même Zach Smith, des jeunes, des gars comme ça qui rentraient dans la Ligue nationale. Puis les vétérans Alfredson, Phillips, Craig Anderson ont vraiment pris les... Robin Lehner aussi était notre gardien. J'oublie son nom, le grand là, qui était à Dallas, qui était à Tampa Bay. Là, le grand,
je le sais.
Bishop, Ben Bishop.
OK.
Ben Bishop était là, c'était la transaction avec Corey Connor. Fait qu'on avait vraiment une équipe de vraiment jeunes ou vraiment vieux, tu sais. Puis les vétérans des Sénateurs étaient exceptionnels à nous faire sentir très bien, à nous intégrer, puis à vraiment se sentir comme une famille. Puis
qu'est-ce qui se passe quand on a un esprit de famille dans une équipe comme ça. Je veux dire, au-delà de dire ce que tu viens de dire, ça se traduit comment concrètement?
Ben, tout le monde pousse ensemble. C'est vraiment cliché, là, mais l'esprit de corps, la victoire, le désir de gagner, de se présenter tous les jours, d'avoir... Je pense que ça amène du plaisir. Puis c'est drôle parce que moi, je suis un de ceux qui croient beaucoup au mental. Puis quand tu es dans un bon esprit de corps, que ta tête... Puis c'est vrai, l'autre année que j'ai vécu, c'est avec Guy Carbonneau, avec le Canadien, avec Carbo dans nos premières années, quand Guy était là. Je me souviens même, une fois, on avait joué à Long Island. Il y avait, avant la pratique, il avait sorti un ballon de soccer. On jouait au soccer sur la glace, tu sais, 10 minutes avant la pratique, juste pour détendre l'atmosphère. L'ambiance était bonne. Puis je pense qu'on avait fini premier dans division ou dans l'Est.
Dans l'Est,
le premier power dans
oui.
L'Est. Puis ça avait vraiment bien été, mais ça partait vraiment de la légèreté du vestiaire. Puis, fait que je l'ai vécu, ouais, je te dirais, cette année-là avec le Canadien. Puis l'année avec les Sénateurs d'Ottawa, une année courtée, c'était l'année du lockout, 48 matchs. Mais j'avais vraiment vécu dans ces deux années-là là-bas. À Minnesota, j'ai pas vécu ça vraiment. Il y avait trop de compétition à l'interne, trop de gars qui voulaient prendre la place de l'autre. Plusieurs gars de nationalités différentes. C'était plus difficile un petit peu que peut-être avec le Canadien ou les Sénateurs. Mais surtout les Sénateurs, moi, qui m'avaient marqué, là.
Ben, c'est intéressant d'entendre ça, puis on s'imagine, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, mais ou même on n'est pas dans la chambre d'hôtel de Romanov quand il téléphone ou qu'il fait un Skype avec ses parents ou de la famille là-bas, ou je sais pas, s'il y a peut-être même des médias russes qui demandent de faire des entrevues avec lui. Lui, il vit vraiment un conte de fées, là.
Ah oui, puis tu sais, il performe, il fait la job. Tu sais, au final, là, le jeune, là, l'esprit de corps, puis le plaisir d'équipe, là, s'il est moins 4 après 3 games,
il aura pas même
face. Il peut dire qu'il y aurait moins de fun.
C'est pis, sûr.
La famille serait moins le fun, puis d'être sur le taxi squad.
Même quand si, ça passe.
C'est ça. Même si t'as une bonne famille sur le taxi squad, c'est demande à Corey Perry s'il aime l'esprit de corps en ce moment. Tu sais, ça dépend tout le temps de la situation que t'es mis dedans, de la façon que tu t'en sors, de la façon que tu performes. Mais il reste que du côté, je pense qu'on a vraiment un bon groupe de leadership du côté du Canadien, des gars qui ont des contrats à long terme, qui sont safe de leur job, puis qui ça leur ça là ça permet de t'offrir aux jeunes. C'est drôle là ce que je dis là, mais ça te permet, tu te bats pas contre personne. Ta job dans la Ligue nationale est sûre. Un gars qui a un contrat de 4, 5, 6 ans, ta job est sûre. Tu sais que tu vas être là l'année prochaine, l'autre d'après, puis tu as une opportunité d'offrir aux jeunes un bagage, puis de les faire grandir pour devenir le joueur qui mérite de devenir, parce que le contrat à long terme te permet ça, parce que t'as pas à te battre pour toi, puis à compétitionner contre le jeune. Non, je peux l'aider, je l'ai, je suis bien positionné, je suis stable. Ça permet ça. Puis je pense que justement, Marc Bergevin a réussi là-dessus en, tu sais, quand il a donné les prolongations de contrat à Gallagher, à Petrie, à Edmondson, ou qui a rentré Anderson, qui a rentré Toffoli. Ça l'a permis ça d'avoir des joueurs qui rentrent, qui vont avoir le temps de s'établir, puis de se créer une synergie entre les boys. Puis ça, c'est super important dans un vestiaire.
Guillaume, quand tu regardes le Canadien de Montréal, trois petits matchs à venir jusqu'à maintenant, mais visuellement, là, quand on regarde ça à la télévision, y a-t-il quelque chose qui te saute aux yeux qui est différent d'avant?
La profondeur.
OK.
Honnêtement, je pense que c'est... tu sais, puis je pense pas que le trio de Toffoli, Kotkaniemi et Armia a encore performé comme on
sentait. Moi, j'allais te dire la grosseur des gars. Physique, parce que ça fait un siècle qu'on dit que le Canadien est trop petit. Puis t'entendras pas personne dire ça cette année. Là.
Non, puis... Mais tu sais, comme on parle d'esprit de corps, l'esprit de famille, moi, je vais vraiment juger le Canadien quand on va être sur 2-3 défaites. C'est là qu'on va voir vraiment l'esprit d'équipe. C'est là qu'on va voir si là, on a rentré les bons joueurs.
Ah, ils vont perdre cette année, hein, Guillaume?
Oui, ça devrait arriver, Mario. tu sais, on s'en va 3 games là, contre Vancouver. Peut-être qu'on va gagner les 3, peut-être qu'on va en gagner 2. Mais je veux dire, on va avoir plus d'adversité. Tu sais, les Leafs, c'est une équipe qui donne beaucoup de chances de marquer. C'est un club qui donne des opportunités, qui veut jouer. Ben, gars, va l'essayer, je vais l'essayer après, puis à la fin, t'en as 6, j'en ai 5, parfait, t'as gagné, on se voit demain. Tu sais, c'est un peu ça. Les Oilers, c'est la même affaire. Pas de défensive, c'est les portes de chez Walmart, puis ça tourne. Là,
j'en ai nos petites vite de même, Guillaume, toi qui étais un gars d'offensive. Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas les chiffres, on ne pourra pas comparer la production des gars cette année avec des saisons de 82 matchs. Mais disons que quelqu'un qui a un contrat négocié cette année, tu crois-tu que le concept des divisions, dont ici au Canada, toi, si t'avais à jouer, tu te dis-tu, hey, je vais en ramasser des points cette année, où ça va être tough de ramasser des points. Tu sens-tu, tu sais, ça va-tu être une année offensive? Ça va-tu être pareil dans tes divisions?
C'est une bonne question. J'ai pas les chiffres devant moi pour. Mais je crois qu'en début de saison, on va peut-être avoir. Ben, j'ai dit ça. Hier, il y a eu des 3 matchs, je pense, qui ont fini 1-0. Puis il y a des prolongations. Je pense qu'en début de saison, on va peut-être voir une marge d'erreur plus grande vu que les gars n'ont pas joué depuis un bout.
Ouais.
Mais il reste que les coachs qui ont des structures. Tu sais, Claude Julien, sa structure, tu la vois, est déjà établie.
C'est sûr.
Tu sais, les vétérans qui sont là prêchent par l'exemple. Puis le système de jeu, on a une constance. Puis ça nous permet de voir. Ça. Donc, je pense que les entraîneurs établis avec de l'expérience qui contrôlent bien leur vestiaire vont être capables en début de saison d'aller chercher des buts et des matchs.
Partout ce qu'il y a des coachs, il y a des systèmes, Guillaume, même dans le milieu de 3.
Toujours.
Hey, poche bleue ce soir avec Kevin Owens.
Kevin Owens. Puis on a aussi Antoine Roussel en troisième période qui va venir nous parler de 3 matchs en 4 soirs contre les Canadiens. Comment on se prépare?
Je vais aller vous écouter un petit peu plus tard, puis je te retrouve avec Maxime demain pour l'édition radio de la poche bleue demain à 19h. Merci, Guillaume. Bye-bye.